Ok. Est-ce que tu avais encore des parties de l'exposé sur lesquelles avancer ou on passe aux questions, échanges?
Vous pouvez passer au... Bah, on échange déjà depuis un moment, il y a des questions qui ont été posées.
Ouais,
Après,
je veux
moi, je vous
dire.
dis, je ne suis pas un spécialiste des mots. Si vous avez des terres à ajouter, n'hésitez pas à les ajouter. Si vous avez des exemples ou des contre-exemples, comme ça, c'est le moment d'en parler. C'est pour les mots.
Un zilote.
Ah bah du coup moi j'ai une question qui que les linguistes débattent aussi. C'est est-ce que la pensée forge les mots, est-ce que les mots ou est-ce que les mots forgent la pensée?
Ah, ça, c'est une super bonne question. Je la pose depuis longtemps.
Oui,
Alors, il y a
faut
des
pas
gens qui ont des réponses hein, là-dessus. Il y a des gens, pour eux, ça fait pas débat. Ils ont déjà, eux, dit, ouais, bah, c'est l'un ou l'autre. Moi, je serais plus nuancé. Je dirais que c'est un peu un aller-retour, quand même. Je dirais que, ouais, effectivement, quand tu nommes, un objet, on va dire, hein, comme ça va être plus tranquille. Quand tu nommes un objet par un vocable, le vocable que tu lui donnes, il faut qu'il soit audible aussi. Il ait une sorte de référence avec celui-ci. Et c'est pas toujours le cas. Par exemple, dans le langage naturel, regarde, tu pourras observer, il y a un truc qui est très rigolo. C'est, moi je l'avais fait avec, j'étais avec une tapée d'étrangers à table, et je leur ai demandé, t'as vu, regarde, quand tu pinces une française, elle dit aïe. Quand tu pinces une anglaise, elle dit ouch. Quand tu pinces une yougoslave, elle fait yoï. Et je leur ai demandé à eux qu'est-ce qu'elles faisaient, eux, dans leur langue. Et ils étaient tous écroulés de rire à table, parce que tous, à chaque fois, ils disaient, bah, nous, on dit comme ça, nous, on dit comme ça. Et en fin de compte, tu vois, même le fait de dire aïe, tu le dis pas dans toutes les langues du tout de la même manière. Donc, ça va pas répondre à ta question, parce que. Est-ce que vraiment, quand tu pinces quelqu'un, tout le monde devrait dire le même vocable? Moi, je sais que non. Je suis convaincu qu'il y a des raisons. Et je suis pas certain que ce soit le fait de dire aïe, ouch ou oui, qui fait que tu penses différemment. Maintenant, pour les objets en propre, et les concepts surtout, là, par contre, je penserais contrairement. Je penserais à l'opposé. Je dirais qu'effectivement, là, ouais, la parole forme la pensée, dans le sens où elle développe des concepts et ces concepts-là organisent ta pensée d'une certaine manière. Donc, dans un premier temps, dans le temps de l'humain et du spontané, sans réflexion, je dirais que non. Dans un temps secondaire, dans un temps réfléchi, de raison, je te dirais que oui. Ça sera ma réponse, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est ce que moi, personnellement, intimement, je pense. Mais c'est vrai qu'elle est intéressante, cette question. Elle est intéressante parce que est-ce qu'on est formaté par les mots qu'on nous propose ou est-ce que c'est nous qui fabriquons ces mots-là? Comment ça s'articule dans notre pensée? Comme je te prenais pour le point, c'est quand même un exemple. Et balèze. D'ailleurs, regarde, encore en géométrie, on va te dire que 4 fois 3, 12, 3 fois 4, 12, donc l'opération de multiplication est commutative. Alors je dirais ouais, mais non. Alors quand
Si.
je dis oui, mais non, 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 tu vas voir. Quand tu parles de quantité, je suis entièrement d'accord avec toi.
Commutation ne veut pas dire équivalence.
Ah ouais. Alors, par contre, quand tu commutes les termes, ça change rien. C'est ce qui est écrit en dictionnaire. Regarde bien, tu vas voir. Le fait de changer les termes, donc commuter les termes, ne change rien. Et moi, je te dis, si on parle en quantité, effectivement, ben, il fera toujours 12. Mais si je te parle en qualité, et là, je te prendrai l'exemple de carreau où tu devras me faire une frise autour de mon évier et que je te dis, tu me fais un 3 par 4 et que tu me fais un 4 par 3, je te paye pas.
Non mais
Donc
à la fin
oui.
on s'en fiche, ça fait le même nombre de carreaux. Après,
Voilà, c'est
donc
ça.
tu es en train de me dire que la multiplication devrait définir quelque chose qui ne le définit pas. Donc
Non,
en
c'est
fait
parce qu'on le nomme mal.
c'est qu'il faut pas non mais c'est juste que ton 4 par 3, c'est pas une multiplication. Tu parles de quadrillage.
Donc, faut pas appeler deux choses.
Enfin, ouais,
la multiplication, la multiplication, c'est autre chose. Et donc, comme tu l'as dit, et c'est le sujet de ce livre blanc, quelque chose qui est commutatif, du coup, ça n'est pas bien fait pour définir ce que tu souhaites. Donc, c'est pas le bon outil.
C'est exactement ce que je veux dire. Ouais. C'est exactement ça. C'est-à-dire que parfois, et surtout, mais c'est vrai qu'il faut quand même reconnaître que ben, les linguistes ou les gens qui s'occupent des dictionnaires ben, ne sont pas forcément ni mathématiciens, ni physiciens, ni, je ne sais pas, du domaine de la médecine. Donc, ils ont le droit, mais on laisse quand même des erreurs parce que on pourrait trouver un autre mot que celui-ci, ou alors on pourrait vraiment, comme tu vois en informatique, n'est pas équivalent, il y a un déterme pour ça. Tu mets un point, c'est quoi ? C'est un point de suspension suivi d'une égalité, ça veut dire le contraire. Donc on pourrait mettre des objets en place, on sait faire, hein, créer des objets, fabriquer des trucs, on sait faire ça. Mais laisser un flou, en fait, là-dessus, tu sais que ça fait faire des graves erreurs. Si tu prends les zéros, par exemple, il y a plein de zéros flottants. Alors, je vais m'expliquer pour les zéros flottants. Les zéros flottants, c'est que si tu prends un litre d'eau, que tu veux le mettre à ébullition et que tu es à hauteur de la mer et que tu fais ton bilan énergétique et que tu refais la même expérience au sommet du K2, tu vas te rendre compte que tu n'auras pas le même résultat. Et ça, c'est à cause des zéros flottants. Parce que le zéro à zéro de la mer... Ah si, tu peux essayer, il n'y a aucun problème. Moi, je te l'affirme.
Mais c'est, en fait, c'est, je ne sais pas ce que tu appelles zéro flottant, mais c'est juste une mauvaise définition du problème. Enfin, on a la pression qui revient à te dire zéro au niveau de la mer, ça a un sens, et zéro à K2, ça a un autre sens. Donc en fait, encore une fois, c'est juste utiliser le mauvais outil pour essayer de définir un problème.
Et si tu prends le zéro Kelvin, tu fais quoi ? Bah, t'es obligé zéro... d'apporter une correction.
Non, le zéro Kelvin, le zéro Kelvin, il a une définition bien propre à lui et qui, enfin, je veux dire, c'est de la thermodynamique à la Maxwell-Boltzmann. Donc le zéro Kelvin, ça a une définition bien propre et bien structurée qui dépend pas du contexte, qui dépend du comportement de la matière.
Sauf que c'est un plancher. Donc c'est un truc qui est stable. Tu vas pas aller. Il va pas se modifier ton zéro Kelvin parce que tu le prends ici ou sur la Lune. Zéro, c'est zéro Kelvin. Alors que tu prends le zéro Fahrenheit, c'est pareil. Le zéro Fahrenheit, c'est basé sur la température du corps humain. Et voilà, on n'a pas tous les mêmes températures. Si tu prends la température moyenne d'un Africain et que tu prends la température moyenne des Inuits, il n'y a pas la même température moyenne. Alors lequel est le bon degré Fahrenheit là-dedans ? C'est ça que j'appelle des zéros flottants, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a basé des trucs, certains, maintenant on le sait, c'est-à-dire qu'à l'époque où ils l'ont produit, hein, c'est vrai que c'était pas idiot de prendre le concept de l'ébullition. Pour l'eau, en plus, c'est compliqué, parce qu'il y a, je sais plus combien de formes exactes d'eau, donc dont une partie qui sont en mode dégénéré, enfin, dont on dit qu'elles sont des modes dégénérés, je crois que c'est 11, de mémoire comme ça, vite fait. Il y a au moins 11 donc, formes d'eau. Et donc à l'époque bon, bah, voilà, ils cherchaient les mecs. Quand tu cherches, t'as le droit de te tromper. C'est quand même un peu normal, il y a des erreurs. D'ailleurs, au titre de la recherche et des erreurs.
C'est pas des erreurs, c'est juste des cadres, en fait. C'est-à-dire que si tu veux étudier quelque chose qui a température ambiante, avec une pression ambiante, utiliser le Celsius, ça a beaucoup de sens. Utiliser le Kelvin, ça a moins de sens. Et donc en fait, donc, c'est ça. Mais donc en fait, c'est juste des outils à utiliser à bon escient. C'est pas, y a pas des outils qui sont mauvais là-dedans.
Ah non, mais t'aurais pas ce problème-là si tu prenais le zéro Kelvin comme référence de base.
Si tu prends parce un zéro,
ah non. Ah non, lui il ne bouge pas. Lui, c'est moins 272,73, un truc comme ça, et lui il bouge pas.
D'accord, mais dans ce cas, en fait, si tu veux des choses qui bougent pas, on peut parler en angström. Hein, si tu veux des choses qui bougent pas en termes de distance, en termes de enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens d'utiliser ce genre d'outil dans la vie de tous les jours. Dire que l'eau boue à 100 degrés, c'est quand même beaucoup plus pratique de dire qu'elle boue à 100 plutôt qu'à 273,15. Enfin, à 373,15. C'est, ça n'a pas de sens.
Pas pour toi. Parce que tu n'es pas habitué. Mais au moins, tu es sûr que quand tu le fais, regarde, c'est pareil. Quand tu fais du commerce, que tu pèses ta tonne sur ton rafio et que tu dois l'emmener, je sais pas, au Pérou. T'as vu, ta tonne, elle fait plus une tonne non plus. Donc tu te fais comment, toi, au niveau commercial? Comment tu t'en sors? Puisqu'on est dans une société de commerçants, on a le commerçant, il doit avoir les yeux fixés là-dessus, non?
D'accord, mais c'est pas très grave. Je veux dire, c'est.
Enfin, non, la tonne, elle n'est pas calculée de la même façon au Pérou.
S'il vous plaît, les enfants, désolé de vous couper, mais c'est juste énervé. S'il vous plaît, il y a des gens qui voulaient parler, en fait, depuis tout à l'heure, qui attendent. Donc, si tout le monde se met à intervenir, on va plus s'en sortir. Du coup, il y a Cyril qui voulait intervenir depuis plus de 5 minutes. Je vais lui laisser poser sa question, Cyril, si tu nous entends. Et de même, Charles, si tu veux intervenir, n'hésite pas à utiliser les émoticônes dans le chat. Ça évitera de passer avant les autres qui attendaient. Cyril, est-ce que tu es avec nous?
Oui, je suis avec vous, merci. En fait, donc brièvement, il y a une petite erreur conceptuelle. Le zéro absolu correspond en fait à la température à laquelle les électrons s'arrêtent de tourner autour de l'atome, et la température définie est à moins 273,16 degrés. Kelvin est utilisé principalement dans le domaine des supraconducteurs et des professionnels de la liquéfaction de l'air pour la manipulation des gaz cryogéniques à très basse température. C'est des domaines qui sont très particuliers. On l'utilise en métallurgie, on l'utilise en cosmologie, on l'utilise en physique nucléaire, mais en dehors de ces aspects-là, ça n'a pas de choses courantes. La variation de la tonne, c'est une déformation professionnelle qui est liée en fait à l'utilisation des unités américaines, où en fait, eux distinguent la short tonne et la long tonne, qui n'ont pas la même valeur que la tonne métrique. C'est un peu le bordel, leur système d'unité. C'est vraiment épouvantable. Ma remarque, en fait, elle portait initialement en fait sur le choix des mots et des vocabulaires. Pour celles et ceux que ça intéresse, je lance une piste de réflexion, vous attrapez ça au vol ou pas, vous en faites ce que vous voulez. Il y a des emprunts de la langue française qui se font sur tout un tas de langues. On a fait des emprunts à la langue arabe, par exemple. On a fait des emprunts au portugais. On a fait des emprunts à l'anglais, beaucoup, un peu trop peut-être, à l'allemand, au russe. Mais il y a une langue en particulier qui est... Il n'y a pas énormément d'emprunts dans cette langue-là. C'est le swahili. Et j'ai le sentiment, alors il faudrait peut-être investiguer là-dessus, que tous les emprunts du swahili parlent de choses absolument pas désirables. C'est-à-dire, c'est souvent la maladie, c'est particulier, les emprunts de la langue swahili en français. C'est des mots swahili, mais ça qualifie pas des jolies choses. Donc je sais pas s'il y a quelqu'un qui souhaite se renseigner là-dessus, mais il y a eu des emprunts qui sont passés dans la langue française. Il n'y en a pas énormément, je pense qu'il doit y en avoir 10, 15, 20, 30 peut-être, maximum. Ça peut être intéressant de lancer une piste là-dessus. Puis après, il y a des mots qui, en fait, au contraire, ont un rayonnement à l'international. Il y a un mot, par exemple, qui est présent dans toutes les langues mondiales, sans exception.
Ça coupe aussi.
Ah, oh, pardon, ça a coupé ?
Ouais.
Ah, je disais, il y a un mot qui a été utilisé à l'international qui vient de la même racine, de la même origine géographique, donc du Pacifique, c'est le terme atoll. Et ce terme atoll existe dans la totalité des langues du monde. C'est un mot qui est devenu universel. Alors il y a des mots comme ça qui pourraient devenir universels. Je pense que atoll fait partie de l'un des rares. Et puis, d'une manière générale, en fait, les mots, ils reflètent aussi l'actualité. Bon, moi, je n'ai pas eu l'occasion de regarder la liste des mots qui vont rentrer dans la langue française au titre du dictionnaire Larousse ou d'autres dictionnaires, mais imaginons par exemple qu'il y a une énorme catastrophe, par exemple en Afrique, où il y aurait par exemple dans la région des Grands Lacs un truc absolument épouvantable dans les alentours de Goma, et ben peut-être que le mot limnique fera son entrée dans la langue française. C'est-à-dire au titre d'un mot qui aura tellement marqué les contemporains à venir que le terme limnique sera devenu courant. Ça peut être une éventualité. Ce que je voulais dire aussi en dernier lieu, c'est que la Corée du Nord et la Corée du Sud ont été séparées en 1955. Aujourd'hui, un Nord-Coréen ne peut plus comprendre un Sud-Coréen. C'est le même peuple, c'est le même pays. Il a été divisé artificiellement par le biais des Américains et des Russes. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus se comprendre. Voilà. Il y a un pays qui est devenu quasiment l'un des plus gros exportateurs au monde, et l'autre est resté arriéré. Et ils ne se comprennent plus. Et j'en aurais terminé.
Je te remercie. C'est intéressant. Surtout sur l'aspect technique. Après, sur la langue des Swahili, c'est vrai que j'avais entendu dire ce truc-là. C'est assez spécial, quand même. C'est un truc, comme tu dis, à creuser un peu, à mon avis. Après, oui, de toute façon, on a emprunté, on a donné des mots à tout le monde, et ça s'est fait partout. Il y a quand même une mondialisation aussi, à ce titre-là, qui est notable. Quand on dit alcool, alcool, c'est un mot, et al, c'est le, c'était alcool. D'ailleurs, alambic aussi, c'est pas un mot d'origine française. Alors, c'est pareil, j'ai bien aimé le mot barbecue. Barbecue, vous m'entendez?
Oui.
Ouais. Le mot barbecue. Alors, est-ce que vous savez, vous, d'où il vient ce mot? Parce qu'il est joli, ce truc.
Alors, attends, juste avant, tu nous gardes la réponse pour après, il y a Charles qui voulait intervenir.
Vas-y, Charles.
Bah écoutez, moi je suis un peu kéblo sur la question de la tonne là, qui me perturbe. Mais je veux pas monopoliser, donc si vous voulez continuer, continuez. De toute façon, la réponse sera portée à l'écrit. Donc
barbecue, en fait, ça définit le sens d'embrochement de la barbe au cul. Voilà. Donc celui-ci, il est vraiment, celui-là, il dit bien ce qu'il veut dire, quoi. Il n'y a pas d'ambiguïté, quoi. Et c'est marrant parce que très peu de gens le savent, ce que c'est mon barbecue. Je l'avais trouvé excellent, j'étais tombé dessus comme ça. Oui, quasiment par hasard, on va dire. Quasiment par hasard, puisqu'on était en train d'en faire un. Donc il y a plein de mots, mais c'est vrai qu'on en a donné à tout le monde, on en a pris à tout le monde. Et ça, c'est des bons échanges. En général, on prend des mots ou on donne des mots parce que les uns ou les autres ne les ont pas dans leur langue. Et plutôt que d'en fabriquer un, d'en structurer un à partir de ses bases à nous, enfin, à nous pour ce qui est de nous, aux autres pour ce qui est d'eux, ben en fait, c'est, on peut considérer quand même que c'est plus pratique. En même temps, ça appauvrit pas une langue, hein, de prendre des mots d'autre part. Enfin, moi, j'ai pas dans l'idée que ça appauvrisse une langue, le fait de rentrer des mots ou d'origine arabe ou d'origine américaine, s'ils n'existent pas les mêmes en français. Comme parking, je sais pas ce qu'on aurait mis nous à la place. Garage à voiture, ça faisait vachement long quand même, quoi. Donc il y a des trucs comme je vous disais, emoji, c'est une nouvelle technologie, c'est un nouvel objet. Emo, icône, ouais, contraction, emoji, pourquoi pas. C'est pas ça, moi personnellement, ça me gêne pas. Je vois pas le mal, loin de là, quoi. C'est surtout sur la réinterprétation de mots. Est-ce qu'ils sont pas réinterprétés à n'importe quelle fin, enfin? Quand on vous fait l'inverse de ce que ça voulait dire à la racine, il y a quand même une intention quelque part. Vous voyez, comme par exemple morale, d'accord? On sait bien ce que c'est que la morale. Immoral et amoral. Des choses qui sont immorales, d'accord? Et les gens qui sont amorales. Et démoraliser. Donc c'est retirer la morale à quelqu'un. Non, mais c'est son moral. Il y a des sortes d'ambiguïtés qui se créent à ce genre de mots. Il y en a quelques-uns comme ça. Mais en fait, pour le coup, il aurait mieux valu en créer un avec un sens qui était bien déterminé. Et c'est ça qu'ils ont fait quand même, les Grecs, pendant très longtemps. C'est essayer de nommer justement les choses, d'essayer de définir des mots avec des concepts, des constantes. Donc, et c'était pas mal fait, quand même. Quand on regarde bien, en fait. Pour des gens qui ont fait un peu de grec, moi j'en ai fait, mais de très loin. Hein. Je ne suis pas un spécialiste, mais comme je vous dis, je vous filerai les cours de ce monsieur de ce prof qui est belge, et quand vous allez entendre ses cours, vous allez dire, ah ouais, effectivement, il y a des mots, qui cite lui, donc je vais pas le, je vais pas piquer dans ses poches, mais je vais vous les envoyer, et franchement, c'est très intéressant quand même. Je vais le faire tout de suite.
Alors, de mon côté, je vais pas tarder à aller arrêter le podcast pour ceux qui nous écouteraient. Est-ce qu'il y en a qui voudraient intervenir pour nos futurs auditeurs, qu'ils entendent encore quelques interventions? Il y a des personnes qui veulent intervenir à l'oral? Allez-y. Réfléchissez un peu, sinon, ôté énervé, aussi après, tu as envie de faire une petite conclusion ou d'y réfléchir. Je vais bientôt arrêter l'enregistrement.
Eh ben, écoute, moi, pour moi, c'est bon. En fait, c'était plus compliqué que prévu à gérer, parce que je suis plus, d'habitude, plus loquace, en fin de compte. J'étais vraiment léger, gentil. Mais je suis plus loquace d'habitude. Et là, avec la technique, à envoyer les trucs en même temps, c'est moins évident. En fait, ça me perd beaucoup. Tu vois, comme je te disais au départ, j'ai besoin de concentration pour cette chose. Et là, c'est pas vraiment super simple à gérer. Je vais quand même envoyer les vidéos du canal.
Vas-y, vas-y.
Jeune homme.
Je vois qu'il y a Charles qui veut intervenir. Vas-y, Charles.
Alors du coup, j'ai l'impression que la question de est-ce que les mots et les façons dont les gens s'expriment et écrivent, c'est issu de leur environnement, et donc du coup, peut-être que si la langue russe est la langue russe, c'est parce qu'ils ont le climat qu'ils ont, ils ont la géographie qu'ils ont, ils ont l'environnement qu'ils ont. J'ai pas l'impression qu'on a... Enfin, j'ai pas entendu une réponse claire sur le sujet. Est-ce que, du coup, quelle est la part de la pensée, de l'environnement, dans justement la constitution des langues et des mots?
Écoute, moi je pensais que déjà c'était intéressant d'en parler. Après, j'avais pas nécessité vraiment, j'ai pas de titre non plus là-dessus pour apporter les réponses à tout. Mais poser ces questions-là, c'était peut-être intéressant pour que justement ils puissent se faire un travail derrière, ou disons au moins une réflexion derrière. Voilà, je vous ai envoyé donc les vidéos. Et parce que vous verrez qu'en fin de compte, ce qu'on va vous amener comme nouveaux termes, comme nouveau langage, pour ceux qui sont jeunes, ça leur posera pas de problème parce qu'ils auront vécu avec, c'est comme avec la technologie. On voit pas le problème quand on est né avec la technologie. Pour ceux qui sont obligés de s'y adapter, eux voient le problème. Et je pense que les plus anciens, eux verront que, notamment avec le langage de leurs gamins, quand ils parlent, il y a des fois, ils doivent un peu trembler quand même. Dire, mais qu'est-ce que ça va donner? Donc, je pense que le sujet des mots, de tout temps, il a été intéressant à questionner. Et que je pense que c'était un bon support, Discord, pour en parler. Mais d'ailleurs, je pense que vous êtes des bons intervenants. Vous avez été gentils avec moi. Je vous remercie. Et je pense que le jeu que je vais vous proposer derrière, il va être assez marrant aussi.
Ok, ben merci à toi. Je vais couper l'enregistrement pour ce soir et on peut continuer après de notre côté.
Ouais, mais c'est moi qui vous remercie, c'est moi.